Bien, donc je vous propose qu'on reprenne pour cette dernière session des journées d'études. Alors, dernière session des journées d'études, mais pas fin du festival Raison d'agir, puisque je vous rappelle qu'on se retrouvera toute l'après-midi, d'abord pour la projection du film La Quatrième Guerre mondiale, à 14h au Planétarium, puis une table ronde avec un titre qui est « Vers un nouvel internationalisme », point d'interrogation, qui sera sans doute le lieu pour qu'on aborde de manière un petit peu plus profonde toutes les questions qui ont été posées encore ce matin sur quelles alternatives, qu'est-ce qu'on peut faire, donc avec toute une série d'intervenants qui nous proposeront différentes alternatives, différents points de vue par rapport aux résistances que l'on peut apporter à cette mondialisation, et pour terminer en clôture une performance d'un groupe d'artistes Upgrade Paris qui vont nous proposer une performance à partir des nouvelles technologies sur la financiarisation en particulier. Bon, vous avez tout ça dans le programme. Donc ce matin, on devait avoir deux intervenants. Le deuxième s'est désisté pour des raisons de santé. Donc ça va laisser plus de temps à notre intervenant, donc à ma droite, Keith Dixon, qui est professeur de civilisation britannique à l'Université de Lyon 2. Membre du collectif Raison d'agir et dont les travaux récents, enfin pas si récents que ça d'ailleurs, mais depuis une dizaine d'années, travaillent sur le travaillisme, le néo-travaillisme, comme on a pu l'appeler, et l'impact de cette modernisation du Labour Party en Grande-Bretagne dans le cadre de l'idéologie dominante néolibérale. Alors, pour citer rapidement ces ouvrages que vous trouverez tous sur la table au fond, donc dans l'ordre de publication, on a d'abord donc Les évangélistes du marché, donc Les évangélistes du marché sur le rôle des intellectuels dans les think tanks britanniques pour non seulement diffuser mais élaborer cette idéologie néolibérale. Et puis ensuite Un digne héritier. Alors, ce digne héritier, c'est qui? C'est Blair, et il est héritier de qui? De Thatcher. Ensuite, La mule de Troie, Blair, l'Europe et le nouvel ordre américain. Et enfin, Un abécédaire du blairisme pour une critique du néolibéralisme guerrier. Voilà. Donc, je te laisse la parole.
Merci. Je vais peut-être commencer avec une touche personnelle. Bon, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. C'est toujours bien de se retrouver parmi des sociologues. Moi qui ne suis pas un sociologue, c'est d'autant mieux quand ça me permet de mettre mon propre passé immédiat un peu en perspective. Pendant la grève contre la régression sur les retraites à Lyon, en fin de mouvement, il y a un certain nombre d'acteurs de la grève qui ont décidé de venir casser le mobilier de la faculté de sociologie. Je n'ai pas immédiatement capté l'importance politique de cette action, mais ils ont, en cassant le mobilier, ils avaient mis sur le mur Keith Dixon, vieux débris de altermondialiste. Et riche de la discussion d'hier soir, je me rends compte que c'est une banalité sociologique ce qu'ils avaient écrit sur le mur, puisque apparemment le mouvement intermondialiste est rempli de vieux débris comme moi, de plus de 60 ans. Donc je pense que si ces jeunes personnes avaient eu des connaissances sociologiques plus élaborées, ils auront fait peut-être l'économie d'écrire des choses désagréables sur le mur, sur moi. Voilà, bon, donc je suis content d'être venu, si ce n'est que pour ça. Je vais parler donc des autres. Je vais parler de ceux qui combattent le mouvement altermondialiste, puisque c'est un des combats du blairisme. Alors, j'ai une difficulté de vocabulaire que vous remarquerez tout de suite, c'est que je ne suis pas sûr comment il faut parler de ces gens-là. Des fois, je vais utiliser le terme blairiste, ça c'est assez clair. Je vais aussi utiliser, pour ne pas être, pour pas que ça soit de la répétition, le terme sociolibéraux, mais je suis moins content avec le terme sociolibéraux, puisque je trouve que les blairistes sont ni sociaux, ni particulièrement libéraux du point de vue politique. Le terme que je préfère pour parler des bléristes, c'est des néolibéraux de deuxième génération. C'est comme ça que je les analyse dans mes textes, mais ça fait un peu lourd. Voilà, donc je suis un peu embêté, mais vous verrez, donc je prends un peu de distance critique par rapport à ma propre terminologie. Pourquoi donc parler du blérisme? On peut se poser légitimement, il me semble, la question de l'utilité politique d'un débat sur l'influence néo-travailliste en France. Après tout, la carrière politique du premier représentant de ce courant a pris fin. Hein, Blair a perdu de son aura médiatique. Grâce, entre autres, à lui, son parti a été largement battu aux dernières élections législatives britanniques, hein, laissant la place à une coalition conservateur, libéral, démocrate. Non seulement Blair a quitté la scène politique britannique, mais il est désormais dans la presse britannique de bon ton, chez les mêmes journalistes britanniques qui l'ont porté au nu, de le tenser tant pour sa gestion de l'économie du pays de 1997 à 2007 que pour son soutien indéfectible et désormais qui manque de soutien, excusez-moi, son soutien donc à George W. Bush. Hein. Le vent médiatique a tourné contre Blair, comme il a soufflé avec une force particulière, il faut dire en passant, contre son successeur au 10 Downing Street, au 10 Downing Street, donc en premier ministre britannique, donc Gordon Brown. Déjà sous Brown, à partir de 2007, le terme New Labour commence à être beaucoup moins usité. C'est encore plus le cas aujourd'hui sous Ed Miliband, même si Brown et Miliband ont, y compris Ed Miliband, pas son frère David, Ed Miliband ont voté systématiquement avec Blair sur toutes les questions les plus importantes, et en particulier l'entrée de la Grande-Bretagne dans la guerre en Irak. Il semble maintenant qu'il y ait une acceptation chez les dirigeants néo-travaillistes que ce terme n'est plus utilisable. Alors, je ne veux pas faire dans l'archéologie politique, mais il me semble quand même qu'il y a encore quelques bonnes raisons de vouloir revenir sur cette période assez particulière dans l'histoire du socialisme européen. D'abord parce que le blairisme, le néo-travaillisme, le social-libéralisme britannique a été la tentative, me semble-t-il, la plus élaborée et la plus théorisée d'en finir avec la tradition social-démocrate et de marier un parti de la gauche institutionnelle à la doctrine néolibérale. En France, le blairisme a servi par ailleurs, me semble-t-il, hein, de révélateur d'un double phénomène politique. D'abord, on peut constater l'engouement d'une bonne partie de l'élite sociale française, tous partis confondus, pour le néo-travaillisme. Mais aussi, c'est pour cela que je parle d'un double phénomène, on peut aussi constater l'écart entre cet engouement et sa piètre traduction politique. Revenir sur le dispositif d'influence blairiste me permet de rappeler que la modernisation, entre guillemets, de la gauche institutionnelle, c'est-à-dire l'acceptation apaisée du marché comme seul horizon possible de nos sociétés, et donc l'adaptation de la gauche au rôle d'accompagnateur social des réformes nécessaires allant dans le sens de la marchandisation. Donc cette modernisation, entre guillemets, a été et reste encore, me semble-t-il, une ambition forte de ceux et de celles qui dominent ici en France les champs politiques et médiatiques. Ça me permet aussi de rappeler à quel point le combat contre la gauche, hein, qui est un autre leitmotiv du blairisme, reste une priorité intellectuelle et politique de ceux qui, comme le nouveau directeur de Libération, ont pu voir dans le blairisme, et je cite de Morand, un formidable travail intellectuel, remettant les travaillistes enfin dans le sens de l'histoire. Revisiter donc le dispositif d'influence blairiste nous permet enfin de rappeler les conditions nécessaires, et c'est le point, je n'aurai peut-être pas le temps de l'aborder en détail à la fin de mon exposé, mais c'est le point qui, pour moi, est le plus important, de rappeler les conditions nécessaires à la transposition internationale des idées et des pratiques politiques pour qu'une idée forte vienne renverser l'ordre des choses. Il faut un contexte pour l'accueillir et il faut une force politique pour la porter. On peut aujourd'hui légitimement se poser la question de savoir si de telles conditions ont été réunies en France pour accueillir le néolibéralisme blairiste. Alors, je voudrais d'abord faire un petit détour avant de discuter du dispositif d'accueil qui a été mis en place par rapport au blairisme. Je voudrais faire un petit détour par le Royaume-Uni, décrire en quelques mots le dispositif qui a été mis en place par les modernisateurs autoproclamés néo-travaillistes pour préparer et accompagner le travail de transformation du travaillisme britannique. Je ne vais évoquer ici que, et très brièvement, le rôle des think tanks qui ont été favorables au projet blairiste, mais je suis bien sûr parfaitement conscient que les think tanks en question ne constituent qu'une partie de ce travail de conversion intellectuelle et politique, et que la multiplication des think tanks, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir ici en France, ces dernières années, n'est pas nécessairement un signe de leur force collective. Donc, dès le milieu des années 80, donc en pleine période thatchérienne, alors que le thatchérisme avait le vent en poupe, et semblait aller inéluctablement de victoire en victoire, la direction du Parti travailliste sous Neil Kinnock, qui avait pris la direction en 83, chercher une manière de reprendre l'initiative dans la bataille des idées politiques. Et à l'époque, beaucoup d'observateurs britanniques soulignaient l'importance de quelques think tanks d'inspiration néolibérale dans la préparation et la consolidation de la rupture thatchérienne. C'est ce sur quoi j'ai travaillé dans les évangélistes du marché. Donc Kinnock a soutenu alors, à ce moment-là, l'initiative de quelques universitaires, on ne donne pas les noms parce que vous ne les connaissez pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, travaillistes, pour créer ce qui s'appelait l'Institut de recherche en politique publique, donc the Institute of Public Policy Research, l'IPPR, en 1988, qui sera donc la première fondation d'inspiration sociale libérale en Grande-Bretagne et servira de laboratoire d'idées pour la direction travailliste avant, mais surtout après l'arrivée de Blair à la tête du parti. Blair arrive à la tête du Parti travailliste en 1994. Selon un des responsables de cet institut à l'époque, qui s'appelle Dan Corey, l'ambition de l'IPPR était, je le cite, de créer un climat intellectuel propice au projet blairiste. Donc, c'est une copie conforme de ce que faisaient à l'époque, quelques années auparavant, les think tanks néolibéraux thatchériens. Le travail collectif, donc le travail intellectuel collectif des modernisateurs travaillistes, se renforce avec la création de DIMAS. Alors DIMAS est créé en 1993, assez intéressant, sous la direction de Jeff Mulgan et Martin Jakes. Jakes vient de la mouvance eurocommuniste et est l'ancien rédacteur en chef de la revue théorique du Parti communiste britannique, donc Marxism Today. Mulgan vient de la même mouvance eurocommuniste et est destiné à jouer un rôle clé plus tard au sein de la Policy Unit, donc cercle d'intellectuels conseillés autour de Blair à 10 Downing Street. Alors l'IPPR fait appel essentiellement à des universitaires. Ce sont des petites structures. C'est un peu la tradition du think tank britannique. Ce n'est pas des structures énormes. Ce n'est pas comparable à la Heritage Foundation, par exemple, aux États-Unis. C'est des petites structures, mais qui travaillent en réseau avec des collaborateurs universitaires. L'ambition de l'IPPR, donc, était l'élaboration de politiques alternatives pour le Parti travailliste, en s'accommodant donc des transformations thatchériennes, désormais pensées par ce groupe-là comme étant inéluctables, sinon désirables, en s'inscrivant contre l'héritage social-démocrate travailliste. Un des documents clés qui a été produit par ce think tank sous l'intitulé de la Commission pour la justice sociale. Hein, c'est un document fondateur du néo-travaillisme et qui va servir de base aux expérimentations bléristes dans le domaine de la politique publique. C'est l'IPPR, par exemple, qui défend l'idée des partenariats publics-privés pour la première fois dans la mouvance travailliste. Dimens a un style assez différent de l'IPPR, un style plus branché, hein, qui se projette un peu comme le conseiller postmoderne du prince. Alors, si ces deux think tanks-là avaient plutôt les yeux rivés sur la situation interne au Royaume-Uni, il y a deux autres think tanks qui ont été créés après l'arrivée de Blair au pouvoir en 1997 et qui, eux, ont pour vocation, c'est une vocation clairement exprimée dès le départ, d'exporter les idées blairistes et ils serviront en même temps de lieu de socialisation aux intellectuels et aux politiciens européens favorables ou tout au moins intéressés par la démarche blairiste. Alors les deux think tanks dont je parle, c'est le Centre de la politique étrangère, donc le Foreign Policy Center, qui a été créé par Blair lui-même en 1998, enfin par Blair et son ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était Robin Cook, qui est en quelque sorte un accident de l'histoire politique de la Grande-Bretagne, enfin je reviendrai, et surtout par surtout le deuxième think tank, Policy Network, donc le réseau politique qui a été créé, beaucoup plus prestigieux, hein, qui a été créé en 2000 par Blair, Schröder, Persson et Amato, avec le soutien des démocrates nouveaux, entre guillemets, américains, et le soutien personnel de Clinton. Alors, si le Foreign Policy Center sert à promouvoir et à légitimer la nouvelle politique internationale britannique, c'est une politique que j'ai qualifiée de bellicisme néolibéral, Policy Network, alors Policy Network, c'est intéressant, le premier président de Policy Network, c'est un Français, hein, il s'appelle Frédéric Michel, qui n'est pas resté à Policy Network, puisque aujourd'hui, il est cadre dirigeant dans une entreprise qui est liée à l'Empire Murdoch en Europe. Parmi les organisations partenaires de Policy Network, on trouve, entre autres, À Gauche en Europe, un think tank donc fondé en 2003 par Strauss-Kahn, Rocard et Moscovici. Et parmi les intervenants réguliers au séminaire de Policy Network au début des années 2000 se trouvent, comme par hasard, Strauss-Kahn, Fabius et Pisani-Ferry. Voilà. Alors, voilà pour les Britanniques. Alors, les néo-travaillistes, les bléristes, une fois arrivés au pouvoir en 1997, ont été particulièrement soucieux d'exporter le modèle thatchero-blairiste de gestion économique et sociale, ainsi que une certaine idée britannique donc des relations interétatiques. Donc l'exportation de ces idées est une préoccupation forte, hein, chez les blairistes. Blair lui-même se sentait une véritable mission, je suis désolé, mais le vocabulaire religieux me vient presque spontanément lorsque je parle de Blair, une mission donc de passeur international de ses propres solutions, hein, comme on peut le constater par exemple dans le discours que Blair a prononcé à Chicago, discours pas assez cité, en mars 99, ce discours qu'il a fait pour le 50e anniversaire de l'OTAN, qui se célébrait à l'époque donc à Chicago, s'intitule « La doctrine de la communauté internationale ». Et c'est dans ce discours, en 99, que Blair redessine les contours de l'utilisation de la force militaire dans les relations internationales, préparant ainsi, quelques années auparavant, les justifications politiques, théoriques des futures interventions militaires anglo-américaines. Alors j'ai tenté de dessiner les modalités de cette exportation des idées dans les deux livres dont on a parlé, la mule de Troie, la mule, vous avez compris, c'était bon, parce que De Gaulle avait parlé du cheval de Troie en parlant des Britanniques en Europe, et moi j'avais trouvé que comparer Blair à un cheval n'était pas sympa pour les chevaux, donc la mule de Troie est un abécédaire du blairisme. Alors la mise en place de ce réseau d'influence blairiste en Europe est assez bien documentée. Il y a une thèse qui est en cours. Thibaut Rioffray à Lyon travaille sur ces questions. Les néo-travaillistes ont pu disposer en France, comme ailleurs, bon, puisqu'on est en France, parlons de la France, de levier, il me semble, conséquent au sein des champs politiques et médiatiques, et peut-être dans une moindre mesure au sein du champ intellectuel, auprès de ceux et de celles qui se voyaient comme porteurs du projet modernisateur. Alors, pour aller très vite, pour nommer que les principaux acteurs du côté britannique de cette tentative de transposition, Giddens, Anthony Giddens, ancien directeur de la London School of Economics, a pu séduire un temps une partie des intellectuels français sociaux libéraux, regroupés au sein des think tanks de la mouvance socialiste. J'y reviendrai dans un moment. Blair et Mandelson, donc deux figures du blairisme, ont trouvé un accueil chaleureux, comme vous le savez, chez les politiciens et les journalistes de divers bords. L'ancien journaliste et syndicaliste, je viens de faire un papier là-dessus que vous trouverez sur le site de Savoir Agir, journaliste et syndicaliste Dennis McShane, qui est devenu ministre des Affaires européennes dans le deuxième gouvernement de Blair, donc à partir de 2001, a été, de mon point de vue, l'acteur principal dans le champ médiatique français, entre autres parce qu'il parle très bien le français, il a un assez bon français. McShane donc joue le rôle de voiture balai, si vous voulez, derrière les ténors, s'exprime dans un langage souvent très peu policé, exprimant donc ce que les autres dirigeants néo-travaillistes, Blair ou Mandelson, ont eu tendance à exprimer par euphémisation. Alors, au cours des années 2000, pour aller vite, McShane est intervenu à maintes reprises dans les médias français, chantant sans cesse les louanges de son chef de parti, mais aussi se positionnant dans les débats français. Il s'est prononcé, par exemple, pour le oui au traité constitutionnel européen en 2005, en faveur du CPE pendant le mouvement social 2006, et, ce qui est quand même assez intéressant, pour le soutien au candidat Sarkozy lors des élections présidentielles en 2007. Alors, de par sa nature néolibérale, mais se réclamant de la gauche, le néo-travaillisme blairiste a fait des adeptes sur l'ensemble, vous le savez, de l'échiquier français, au moins jusqu'au début de la guerre d'Irak, qui a marqué le début d'un certain effritement parmi les soutiens publics au sein de la gauche institutionnelle. Si Dominique Strauss-Kahn, Jacques Delors, Martine Aubry, Ségolène Royal, Claude Allègre, Michel Charras ou Jean-Marie Bockel, entre autres, ont apporté avec plus ou moins de subtilité, alors plus chez Delors, moins chez Bockel, leur soutien public au blairisme, surtout dans sa phase ascendante, cela a aussi été le cas, bien sûr, à droite, où le néolibéralisme moderniste de Blair a attiré la sympathie des dirigeants de l'UMP. La plus grande réussite de Blair, sans doute, de ce point de vue, a été d'avoir forgé une relation politique et amicale, durable, avec celui qui devait être le candidat victorieux de la droite française lors des élections présidentielles de 2007. C'est dans les médias français que les soutiens au blairisme et donc les opportunités d'intervention néo-travailliste ont été le plus nombreux. Il y a eu un véritable enthousiasme journalistique pour les prouesses supposées du gouvernement néo-travailliste d'Outre-Manche. Alors, je pense par exemple, la liste est trop longue, ça prendrait des heures, mais je pense à tel journaliste du Monde, alors pour ne pas le nommer Éric Le Boucher, attribuant un quotient intellectuel de pétanque hein, à ceux qui n'avaient pas perçu les succès économiques et sociaux du blérisme. Ou à la succession, il n'y a pas que le monde, la succession d'envoyés spéciaux de libération en Grande-Bretagne pendant la décennie blériste, qui ont relayé fidèlement les réussites du modèle néo-travailliste, sans jamais se pencher de manière un tant soit peu critique sur les chiffres du chômage, par exemple, que les sites officiels du gouvernement néo-travailliste en place leur fournissaient. Au moins depuis le début du deuxième mandat de Blair en 2001 et jusqu'à présent, les bléristes n'ont jamais manqué de place hein, pour s'exprimer dans la presse française. Hein, de ce point de vue, donc, l'accueil de McShane a été assez exemplaire. Ça va de la rubrique Roban de Libération jusqu'aux pages du Figaro. Il est pas très, il est assez éclectique hein, dans ses interventions. En passant par les trois derniers forums organisés par Libération et le think tank social libéral Terra Nova, McShane a été aux avant-postes donc, de tous les combats néo-travaillistes en France. Si on veut se convaincre de la persistance hein, de ce phénomène politique, de ce phénomène d'adhésion idéologique des médias français, vous n'avez qu'à revisiter la couverture médiatique de la sortie de la traduction française de la biographie, de l'autobiographie de Blair, hein, pour constater à quel point les journalistes qui comptent dans le champ médiatique français ont été convertis au blérisme. Toujours d'ailleurs, c'était assez intéressant, sous le vocable de l'évidence. Moi, j'ai encore en souvenir, j'avais été invité sur TV5 par aux craintes pour, entre guillemets, débattre, vous parler d'un débat, sur le blérisme. Et aux craintes avait fait son introduction en disant, Monsieur Dixon, vous n'allez pas nous dire que blérisme n'a pas été une réussite économique. Vous n'allez pas nous dire que le blé... Bon, c'est difficile. J'ai dit oui, si. Mais bon, voilà. Donc, sous le vocable de l'évidence, hein, vous avez peut-être vu, ou ça vous est peut-être pas frappé, vous n'avez pas les mêmes préoccupations que moi, que Laurent Geoffrin avait fait un éditorial lors du départ, lors de des dernières élections britanniques pour prédire que nous regretterons Tony Blair. Hein, que nous regretterons Tony Blair. Mais le dispositif d'influence néo-travailliste ne s'arrête pas, me semble-t-il, aux confins du champ politique et médiatique. Il a aussi, en quelque sorte, une dimension intellectuelle ici en France. Alors, bien sûr, il ne manque pas de lieu de socialisation internationale des acteurs, qu'ils soient intellectuels ou non, de la mouvance socialiste. Hein. Bon, l'international socialiste, le Parlement européen, les groupes de pression autour du Parlement européen. J'ai découvert simplement en consultant les biographies des uns et des autres que l'Institut européen de Florence semble être une pépinière des futurs sociaux libéraux, qu'ils soient français ou pas. Mais à ces lieux traditionnels de socialisation, il faudrait sans doute ajouter les clubs de réflexion et autres fondations qui ont poussé en nombre autour du Parti socialiste ces 10 dernières années après la disparition de la Fondation Saint-Simon, hein, qui s'est autodissoute en 1999 hein, et qui fut une véritable maison mère des sociaux libéraux français. Il y a eu pendant cette période un travail de maillage hein, entre les think tanks bléristes d'une part et les clubs, les fondations créées en France pour promouvoir les idées de la gauche de marché. De la gauche de droite, si vous voulez. De la même manière que les intellectuels néolibéraux de la période thatchérienne pouvaient transiter indifféremment d'un think tank hayekien à un autre. On les retrouvait tantôt au centre d'études politiques, tantôt à l'Institut des affaires économiques, tantôt à l'Institut Adam Smith. Donc il y a une porosité assez forte entre ces différents think tanks. De la même manière, donc, quelques militants intellectuels de la gauche néolibérale française naviguent entre think tanks blairistes et think tanks moderniste français. Pour mentionner que quelques-uns, Laurent Bouvet, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Nice, qui a été un temps rédacteur en chef de la revue Socialiste, a pu rendre service non seulement à la plupart des think tanks de la mouvance sociale libérale française, il a été secrétaire général de la République des idées de 2001 à 2002. Après, il est passé à Terra Nova. Maintenant, il est à la Fondation Jean Jaurès. Mais, c'est ce qui m'intéresse plus, il a aussi pu s'inscrire dans le travail de diffusion des bons modèles de gouvernance progressiste entrepris par le think tank Blairist Policy Network. Bouvet est un contributeur régulier au travail de Policy Network. De la même manière, Olivier Ferrand, jeune étoile du monde des think tanks français, qui a dirigé Terra Nova depuis sa fondation en 2008, a été invité à la même année, lorsqu'il est devenu directeur de Terra Nova, au colloque international qui a été organisé par le Foreign Policy Center. Et Terra Nova décrit aujourd'hui Policy Network comme notre think tank britannique partenaire. Donc il y a un fort maillage entre les deux. Dernier exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Dernier exemple, pour rester court, Antoine Colombani, qui a été chercheur, qui a commencé sa carrière comme chercheur au think tank Blairist, donc Policy Network, avant d'être nommé maître de conférence à l'IEP de Paris. Il continue d'ailleurs à fustiger la gauche de la gauche dans les articles qu'il écrit pour son ancien patron londonien, parce qu'il contribue encore au travail de Policy Network, et est aujourd'hui membre du conseil de rédaction de La Vie des idées, think tank parisien, qui entretient des liens, on va dire, plus que fraternels avec la République des idées de Rozon Vallon. Voilà. Alors, après avoir dit tout ça, c'est-à-dire malgré cet aéropage impressionnant de lieux d'accueil, de passeurs, de complices journalistiques et intellectuels, le blairisme, de mon point de vue, n'a pas pris en France. Ou tout au moins, les sociaux-libéraux sont encore aujourd'hui contraints d'avancer sans référence explicite au modèle britannique qui leur sert pourtant souvent de point de repère politique et intellectuel. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cet échec relatif de transposition des idées blairistes au sein de la gauche française. Oui, non, c'était pour vous dire, puisque hier on nous a dit, en gros, je résume de manière sans doute un peu simpliste, mais que le mouvement altermondialiste était composé d'une part de vieux, donc de vieux débris, d'autre part de jeunes post-adolescents, que sa nature était plutôt petite bourgeoise, comme diraient des marxistes comme moi, et que les vieux débris qui dominent ce mouvement passent leur temps à se chamailler sur des conflits qu'ils avaient eus au moment de leur adhésion à la 4e, voire à la 3e internationale. Voilà, donc on a quelques soucis, mais c'est pour dire qu'on n'est pas les seuls à avoir des soucis, eux aussi ont quelques soucis, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un formidable dispositif d'influence que ce formidable dispositif d'influence marche. Et j'ai l'impression, en regardant de près depuis longtemps maintenant le blairisme, que ça ne marche pas si bien que ça en France. Pourquoi ? Bon, d'abord parce que, bien sûr, le message a été brouillé par le nombre et la diversité des récepteurs politiques français. C'est quand même un peu compliqué, si vous êtes responsable socialiste, d'accorder un soutien public à quelqu'un, Blair en concurrence, si ouvertement courtisé et si facilement séduit par les partis de la droite parlementaire française. Donc ça, ça pose quand même quelques problèmes. Et ce phénomène de brouillage n'a pu être qu'exacerbé par le transfert d'une partie du personnel politique socialiste, cette partie qui avait le plus bruyamment exprimé son soutien au blairisme, dans le camp sarkozyste. Ah, bon, je pense à Bockel, c'est à la fois c'est la caricature, c'est aussi un peu l'ambulance sur laquelle je tire régulièrement, mais il n'y a pas que Bockel. Hein. Bockel, c'est un des rares, lorsqu'il était au sein du Parti socialiste français, à se réclamer ouvertement du blairisme. Mais si on peut dire la même chose de Kouchner. Kouchner n'était pas particulièrement intéressé par l'expérimentation de gestion économique et sociale blairiste, mais par contre, les idées sur la politique internationale, il y a une forte proximité entre ce que dit, a écrit, ce qu'a fait Blair et le positionnement sur ces questions de Kouchner. Le fait que ce personnel-là se soit déplacé dans le camp sarkozyste n'a pas rendu plus facile le travail de diffusion du blairisme au sein de la gauche française. Et puis, il y a le poids de ce que j'ai envie d'appeler les réalités, hein, qui sont devenues difficiles à dissimuler. La crise financière de 2007 et sa suite de destruction économique et sociale est passée par là. Hein. Le fait que le Royaume-Uni fut un des épicentres de la crise et que ses pratiques financières et bancaires sont de ce fait l'objet d'un regard plus attentif et plus critique de l'opinion publique, française entre autres, a largement miné, de mon point de vue, cette représentation lénifiante du modèle britannique soutenu jusque-là dans une bonne partie des médias français. Il est plus difficile aujourd'hui, me semble-t-il, d'affirmer avec autant de morgue la supériorité des modalités de gestion économique et sociale introduites sous Thatcher et consolidées sous Blair. Le mythe, ça a toujours été un mythe, du plein emploi britannique, hein, ça a toujours été, c'est quand même assez étonnant. Ce n'est qu'il y a quelques mois, je pense qu'il y a un mois, six semaines, que le Guardian, pour la première fois, a titré « Il y a 5 millions de chômeurs en Grande-Bretagne, 5 million unemployed in Britain hein, ». Alors qu'on est un certain nombre à dire ça depuis longtemps, hein, qu'il est impossible de comparer les chiffres de chômage en France et les chiffres de fromage en Grande-Bretagne, du chômage en Grande-Bretagne. Pourquoi ? Parce que, oui, je fatigue. Oui, c'est la fin. Ah, c'est voilà. C'est impossible de les comparer, puisque dans ce qui n'est pas compté en Grande-Bretagne, ce sont effectivement ces 2 500 000 personnes qui sont déclarées inaptes au travail, hein, qui représente à peu près 7% de la force de travail en Grande-Bretagne. Et si on ajoute au moins une partie de ces inaptes au travail, on arrive effectivement, comme le dit le Guardian, enfin, 10 ans après, à autour de 5 millions de chômeurs en Grande-Bretagne. Donc, le mythe du plein emploi, la réalité donc des inégalités sociales, la brutalité des politiques pénales, l'extrême maigreur de la couverture sociale ont été révélés en quelque sorte par la crise financière, sans bien sûr avoir été générés par elle. Elles étaient là avant. À tel point d'ailleurs que Sarkozy a pu lâcher en pleine crise bancaire britannique que on ne voudrait pas leur ressembler, hein, parler des Britanniques. Alors que quelques mois avant, il avait annoncé tout aussi publiquement, hein, que la Grande-Bretagne était, je le cite, un modèle pour nous. Enfin, aux grandes dames aussi des modernisateurs autoproclamés français, il y a ce qu'ils appellent eux-mêmes le surmoi marxiste de la gauche française. Hein. Ce que moi j'appellerais plus volontiers le poids symbolique du mouvement social. Ça, c'est pour vous dire qu'on quand même en sert à quelque chose, hein, après tout. Hein. Le mouvement récent en France contre la régression sur les retraites, quelle qu'ait pu d'ailleurs être son issue, est venu rappeler à tous ceux et toutes celles qui, à gauche, rêvent de lendemain sans lutte sociale, qu'ils ont encore des jours difficiles devant eux. Voilà.
Donc, on va passer la parole à la salle pour une première série de questions. Moi, à partir de ton exposé, je t'interrogerais bien, puisqu'en plus, tu ne seras pas là cet après-midi pour la table ronde, sur ce que tu penses de l'altermondialisme. On a cru comprendre que tu n'avais pas tout à fait la même vision que celle qui a été donnée hier. Donc, ça serait peut-être intéressant de t'entendre sur ce sujet. Des questions ?
Et du même coup, sur un autre sujet, sur la place des think tanks ou des ébauches ou des cousins de think tanks qui peuvent exister dans la gauche de gauche, sur leur rôle, leur efficacité, leur place à venir, ou les conseils en la matière. Enfin, voilà, tout serait bon à prendre parce que c'est aussi une question qui se pose, je pense. L'efficacité n'a peut-être pas été si nulle que ça, là non plus, mais la question peut quand même continuer de se poser sur les meilleures formes de travailler sur le lien entre l'espace intellectuel et l'espace des mouvements sociaux.
Moi, c'était une question sur le rôle des institutions académiques. Tu as parlé de l'Institut européen de Florence, mais je pense qu'il y a aussi tout un réseau d'institutions académiques qui sont particulièrement présents dans ce travail de mobilisation blairiste. Et je me demandais si tu avais des choses sur les différentes disciplines, leur degré de mobilisation aussi. Je pense à l'économie, bien sûr, la science politique. Tu as cité par exemple Pisani-Ferry, qui a aussi d'ailleurs un think tank qui s'appelle l'Institut Bruegel, qui est assez important, je pense, pour la promotion des réformes structurelles à gauche, enfin à gauche et plus largement, y compris sur la question des universités d'ailleurs. Voilà. Donc, est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus là-dessus, sur ce que tu sais de ces réseaux ?
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la première série ?
Oui. Juste un mot sur pour répondre à ta question sur l'altermondialisme. Bon, je l'ai fait sous la forme un peu humoristique, mais c'est vrai que en écoutant les analyses des sociologues d'hier soir sur le mouvement altermondialiste, moi j'en suis sorti un peu déprimé. Hein, mais je me dis que c'est sans doute un peu comme une analyse, une psychanalyse personnelle. C'est-à-dire, on sait que à court terme, ça risque de faire des ravages, mais à long terme, ça peut faire du bon. Oui, mais vous hochez la tête, mais j'allais ajouter, vous savez que Keynes avait dit à long terme, on est tous morts. Hein. Donc, voilà, non, je pense que c'est utile d'avoir une réflexion fortement réflexive sur notre mouvement. Il faudrait faire attention simplement que la réflexivité ne tue pas complètement le désir de mobilisation. Hein. Voilà. Alors, sur les think tanks, ce que je constate, moi qui travaille un peu sur les think tanks depuis longtemps, c'est qu'il y a maintenant ce qu'on pourrait appeler une industrie du think tank. Hein. Et je crois que l'efficacité qu'on a pu constater, sans doute je n'ai pas été assez précis et assez rigoureux dans la manière dont j'ai parlé au départ des think tanks néolibéraux. Et j'ai pu produire, générer dans les travaux que j'ai faits à cette époque-là, une illusion chez ceux et celles qui voulaient combattre le néolibéralisme, qui serait du type, ben voilà, on n'a qu'à faire comme eux, hein, et nous aussi, on pourra changer le climat des idées. Et ben, c'est pas si simple. Hein, c'est pas si simple, et c'est en travaillant sur les sociolibéraux que je me suis rendu compte que malgré des dispositifs qui étaient à beaucoup d'égards plus raffinés, plus sophistiqués, plus ancrés, plus financés que les premiers think tanks néolibéraux, ils avaient une efficacité politique qui était sans doute moins grande. Hein. Donc, attention à l'illusion de l'efficacité immédiate du think tank. Ce que j'ai essayé de dire au départ, une idée a besoin d'un contexte pour l'accueillir, un contexte historique pour l'accueillir, et puis il a besoin d'une force politique pour la porter. Hein, pour répondre plus précisément, je pense que, bien sûr, j'ai répondu à cette question il y a un certain nombre d'années, est-ce qu'il faut un think tank de gauche ? Je pense qu'il faut un think tank de gauche. Je ne pense pas qu'il faille 10 think tanks de gauche. Hein, et je pense que... mais ça a toujours été la faiblesse hein, de la gauche, c'est-à-dire son incapacité à se coordonner, malgré le discours sur l'organisation, etc., à s'organiser pour que la frappe soit efficace. Hein. On discutait tout à l'heure là, de collègues qui vont dans la même université créer deux revues d'inspiration marxiste, mais je rêve. Hein. C'est sans doute pas comme ça qu'il faut faire. Donc, je pense qu'un regroupement plus resserré des intellectuels critiques autour d'une fondation, d'un club ou d'un think tank ferait sens. Hein. Mais que le constat que je fais, peut-être que j'ai tort, mais le constat de la prolifération des think tanks, quel qu'il soit, que ça soit à droite, parce que vous avez aussi une prolifération dans certains pays de think tanks néolibéraux et qui ont une efficacité qui n'est pas nécessairement très, très, très forte. Hein. Donc là, je pense que c'est une question de savoir gérer de manière un peu plus musclée notre diversité intellectuelle et politique. C'est facile à dire, hein. Je sais. Sur les institutions académiques, non, je n'ai pas grand-chose à dire, Fred, si ce n'est que des évidences, à savoir qu'il y a quelques centres où le travail de consolidation du modèle néolibéral continue à se faire. Bon, j'ai parlé de l'Institut de Florence uniquement parce que cet institut est récurrent dans les biographies de ceux sur lesquels j'ai travaillé. C'est évident que la London School of Economics accueille un certain nombre d'acteurs majeurs dans le processus de néolibéralisation. Moi, j'ai fait un travail il n'y a pas longtemps qui a été publié en Grande-Bretagne sur le rôle de l'université de St. Andrews, mais plutôt dans mes anciens projets, c'est-à-dire le rôle de l'université de St. Andrews au début du processus, au début du combat néolibéral intellectuel. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte en faisant ce travail-là qu'il y a toute une travail d'occultation de la réalité des origines du néolibéralisme britannique qui a été fait. Les premiers néolibéraux, les jeunes, ceux qui sont devenus après les dirigeants de l'Institut Adam Smith, lorsqu'on regarde leurs écrits, ce que j'ai essayé de faire, étudiants, lorsqu'ils étaient étudiants à l'université de St. Andrews, vous trouvez deux choses. Vous trouvez effectivement une adhésion précoce à la doctrine hayekienne. Ils sont parmi les premiers, je pense, hein, parmi le mouvement étudiant britannique dans les années 60 à parler de Hayek. Mais il y a aussi un fort soutien à la suprématie blanche en Afrique australe, ce qui a été totalement occulté de leur histoire. Ce sont des combattants hein, à la fois pro-apartheid, hein, défendant le régime rhodésien de l'époque, et des combattants néolibéraux. Lorsqu'ils écrivent leur propre histoire, ils enlèvent Madsen Perry, par exemple, qui écrit beaucoup sur lui-même, qui est le président de l'Institut Adam Smith. Il a tout simplement oublié cette partie de sa biographie politique personnelle. Hein. Donc, mais sur les réseaux, je ne suis pas bon.
On peut prendre une dernière série de questions ?
Du coup, non, je repensais un petit peu déjà, je voudrais un petit peu remercier Keith Dixon de donner un petit peu une vision un peu optimiste des ravages causés par le blairisme sur la gauche socialiste française. Enfin, je dis gauche socialiste, je veux dire parti socialiste en fait. Parce que souvent, quand on entend parler du blairisme, on a l'impression voilà, que c'est vraiment un mouvement inéluctable et que le Parti socialiste français est en train de se faire complètement. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette idée qu'il y a quand même une résistance certaine en France, donc ce que vous disiez sur la fin, du Parti socialiste, même si c'est pas tout à fait... pas que dans ce sens-là, mais c'est quand même une réalité. Mais la question qu'on peut se poser, alors, à ce moment-là, c'est pourquoi, si c'est une telle résistance, pourquoi est-ce qu'on va se prendre Strauss-Kahn comme candidat. Et du coup, je voudrais poser deux questions un peu corollaires. En revenant un petit peu sur le titre de Libération qui disait « On va regretter Blair », on déconne avec mon voisin en se disant « En même temps, nous, on dit souvent qu'on regrette Chirac. Et finalement, est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on va se prendre Strauss-Kahn ? Parce que finalement, bon... Beaucoup de gens à gauche se disent, bon, finalement, entre Sarkozy et puis autre chose, est-ce qu'il ne vaut même pas mieux un petit peu un vote utile, hein, une sorte de théorie de lecteurs médians, là, qui, bon, recentrons-nous un petit peu. Ce n'est pas terrible, mais bon, c'est quand même mieux que Sarkozy. Et puis, l'autre question, c'est est-ce que quand même le travail des think tanks a pas un petit peu marché dans le sens où on a quand même convaincu une partie de l'électorat que les forces du marché étaient des forces naturelles et que finalement, face à ça, il fallait adopter une posture un peu plus raisonnable, un peu plus compréhensible de ce que c'était que l'économie. Et du coup, voilà, quand même, Strauss-Kahn, il est quand même un peu plus, voilà, il est un peu plus solide que ceux qui délirent un petit peu à sa gauche. Voilà, je propose ça à la réflexion.
Oui, moi j'aurais aimé te demander un peu... de préciser comment tu décides, enfin comment tu conclus que ça marche ou que ça marche pas cette importation, parce qu'il me semble, comme tu le disais, que sur beaucoup de points, on a subi une influence nette. Alors c'est vrai qu'il y a des résistances, mais à partir du moment où on décide, comment on mesure finalement le succès d'un modèle comme ça dans son importation. Et la question qui me venait après, c'est est-ce qu'on ne peut pas penser finalement que ces modèles, il leur faut un peu de temps pour s'implanter et qu'en France, comme souvent, on va avoir un métro de retard, c'est-à-dire qu'en fait, le modèle va se réaliser quand on aura Strauss-Kahn président et que lorsque les Anglais se seront aperçus depuis longtemps que ça ne marche pas, quoi. Mais donc, et nous, on mettra 10 ans à s'apercevoir que... Enfin, ça, c'est la version négative, hein, c'est pas très... C'est pour ramener ton intervention à quelque chose d'un peu pessimiste quand même dans le ton de...
Je voudrais poser une question sur par rapport à ce que serait un think tank de gauche efficace. Est-ce que vous pensez que les divergences qu'il y a actuellement, est-ce qu'il y a des divergences qui sont non fondées ? Et moi, j'ai l'impression que dans les divergences qu'il y a, c'est notamment par rapport à l'analyse de la place politique du néolibéralisme de gauche et de son influence. Et alors, est-ce qu'il faut être en rupture frontal ou est-ce qu'il faut avoir des biais tactiques? Mais c'est quand même sur la question des biais tactiques, parce que en gros, sur l'idée qu'il faudrait arrêter la privatisation, et toutes les privatisations, et revenir à des formes de socialisation qui resteraient à inventer, portées par un mouvement social qui n'est pas encore tout à fait développé comme on aimerait, c'est un peu partagé. Mais après, c'est à la fois il y a quelque chose de tactique qui renvoie à des choses qui sont exprimées de manière souvent brutale, mais quand on creuse, ça arrive à des... Il y a peut-être des divergences. Quoi. Est-ce que vous pensez que ces divergences valent le coup ou pas, quoi ?
J'avais encore quelque chose à te demander avant. Ça laissera le temps de voir si quelqu'un veut poser une dernière question. Alors, pour revenir sur une note plus optimiste, pour repasser, tu as terminé ton exposé sur le rôle de la France et du mouvement social en France. Mais il y a un domaine sur lequel les Britanniques sont en train de nous donner sérieusement des leçons, à nous Français, en particulier universitaires. C'est la lutte contre la marchandisation de l'université, où ils continuent. Et mes étudiants me disaient il y a deux jours, qu'ils avaient vu que les étudiants britanniques occupaient depuis des semaines, avaient installé des tentes à Trafalgar Square, et sans qu'on en ait bien sûr entendu parler en France, à part dans nos réseaux politiques ou associatifs. Est-ce que tu peux développer un tout petit peu ce point ? C'est bon ?
Oui, c'est déjà beaucoup. Je vais commencer avec la fin, c'est-à-dire que sur les luttes universitaires, c'est vrai que c'est sans doute... Moi, je suis d'éducation calviniste, hein, donc chacun sa croix. Hein. Et donc j'ai une tendance naturelle au pessimisme que je combats vivement, hein, vigoureusement, même si c'est pas complètement justifié. Hein. Donc, ce qui explique un peu ma posture là aujourd'hui, je reviendrai sur cette question, sur l'optimisme. Enfin, je pense qu'il faut de toute façon rester réaliste. Sur l'université, d'abord, une des positions que j'ai défendues depuis le début des combats contre la néolibéralisation des universités françaises, c'était en gros que ceux d'entre nous qui avaient travaillé sur la réalité britannique avaient déjà vu le film et connaissaient la fin. Hein. Donc, on savait que ce qui a été mis en place par la loi LRU était assez proche des transformations qui ont été introduites dans l'université britannique dès les années 80. Et donc, on a un recul historique pour savoir ce que ça donne quand on fait ça. Hein. Donc, on sait que, par exemple, dans les années 80, en Grande-Bretagne, on a commencé en fermant des petites facultés de langue, petites, à Dundee. Tout le monde s'en foutait. Parce que Dundee, c'était pas grand-chose, parce que c'était une petite université, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas très performants, et puis il y avait l'université de St. Andrews qui n'était pas loin. Donc. Mais le problème, c'est qu'on a commencé avec Dundee et on a fini avec Glasgow. Et ces derniers temps, on est en train de démanteler ce qui était considéré comme un des fleurons de l'enseignement des langues en Écosse, qui était le département des langues à Glasgow. Donc on sait qu'il y a dans ce processus un certain nombre de conséquences plus ou moins inéluctables à partir du moment où on adopte la logique. Hein. Comme je pense, je vous dirai comme je le pense, c'est-à-dire que je crois qu'une des conséquences inéluctables de la mise en place de l'autonomie financière des universités françaises, donc des soi-disant compétences élargies, c'est, tôt ou tard, une augmentation substantielle des droits d'inscription pour les étudiants. Parce que c'est la seule source stable, solide, fiable pour un financement autonome des universités. Et une des leçons qu'on peut tirer de l'expérience britannique, c'est que vous pouvez faire ça avec une rhétorique de gauche. Ça, c'est une des conclusions que moi, je tire de la période blairiste. C'est sous Blair hein, que les frais d'inscription ont pris leur envol hein, en Grande-Bretagne. Et la rhétorique, c'était simple. Vous regardez la composition sociologique du corps étudiant, vous constatez que ce corps étudiant n'est pas représentatif de la société britannique, puisque les couches moyennes supérieures sont largement surreprésentées chez les étudiants. Vous tirez la conclusion que introduire des droits d'inscription importants pour les étudiants, c'est une position de classe. Vous faites payer les couches moyennes et les couches moyennes supérieures. Donc avec une rhétorique, vous ne croyez pas aller chercher dans les archives la manière dont on a mobilisé la rhétorique de gauche pour augmenter les frais d'inscription. Et ça, c'est une des leçons. Voilà. Donc c'est une des leçons qu'il faut tirer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, de mon point de vue, laisser passer l'idée que finalement, Strauss-Kahn, ce serait toujours mieux que n'importe quel candidat de la droite néolibérale. Parce que l'expérience britannique du blairisme montre que les néolibéraux de gauche sont capables d'autant de destruction sociale, sinon plus, que les néolibéraux de droite. Alors, je sais, c'est une idée qui va à l'encontre du bon sens, c'est contre-intuitif de dire que Blair c'était pire que Thatcher, et pourtant, dans certains domaines précis, pas tous, hein, Blair a introduit le salaire minimum. Thatcher n'aurait jamais accepté d'introduire un salaire minimum, même si le salaire minimum britannique a été entouré de beaucoup de précautions en excluant beaucoup de catégories, mais il y a quand même un salaire minimum. Ceci étant dit, si on regarde par exemple la politique pénale sous Blair a été autrement plus punitive que sous Thatcher, alors que lorsque vous regardez la rhétorique thatcherienne et blairiste, vous pouvez penser que Thatcher était la plus punitive des deux. Mais non, allez regarder le taux d'incarcération en Grande-Bretagne et ce pourquoi on est incarcéré en Grande-Bretagne, vous constaterez que les choses se sont empirées de manière radicale sous Blair. Pour des raisons qu'on peut expliquer, etc. Il faut lire la thèse d'Emma Bell sur la politique pénale blairiste, cet exemplaire de ce point de vue-là. Donc il y a là, de mon point de vue, un argument qui est utile et qui est lourd hein, du point de vue historique. Si on se base sur l'expérience récente de la mise en place de politiques dites sociales libérales dans un pays qui est parfaitement comparable à la France, qui est la Grande-Bretagne, il y a dans certains domaines une aggravation qu'on n'a pas connue sous la période néolibérale de droite. Donc l'idée qu'une candidature Strauss-Kahn ce serait moins pire en quelque sorte qu'une candidature néolibérale de droite est une idée à contester. Alors, c'est possible que ça soit moins pire, mais pas pour les raisons que les défenseurs de cette idée-là pensent. C'est-à-dire, il est possible que Strauss-Kahn ait une marge de manœuvre plus étroite que les sociaux-libéraux britanniques, justement parce qu'il y a un mouvement social en France qui n'existe pas en Grande-Bretagne. C'est pour ça que je suis un peu hésitant sur l'histoire de la leçon qu'on peut tirer des luttes universitaires en Grande-Bretagne, c'est sûr, il y a une forte lutte universitaire aujourd'hui en Grande-Bretagne. Mais je dis aujourd'hui, c'est-à-dire 30 ans après la mise en place des politiques universitaires thatchériennes qui ont décimé l'université britannique. Donc il a fallu 30 ans hein, pour qu'enfin hein, il y ait une vraie riposte étudiante. Ce qui est intéressant de mon point de vue à partir de ce qu'on a discuté hier soir, c'est que cette riposte étudiante a été fortement appuyée par les syndicats ouvriers britanniques et en particulier par le Transport and General Workers Union, qui n'est pas rien hein, dans la constellation syndicale britannique. C'est-à-dire que là, on en a discuté hier hein, de cette espèce de dissociation entre d'une part le mouvement syndical et d'autre part le mouvement, enfin les mouvements altermondialistes ou d'autres. Là, vous avez un vrai mouvement qui est parti sur des bases plutôt associatives, etc., plutôt décentralisées, qui était le mouvement étudiant et qui a été rejoint fortement par les syndicats. Donc, de mon point de vue, c'est plutôt là où se trouve l'élément d'espoir dans la lutte universitaire britannique, non pas dans son existence, elle aurait dû exister depuis longtemps, mais dans ce qui semble être, restons précautionneux, hein, mais ce qui semble être une convergence nouvelle. Ce n'est pas habituel qu'un grand dirigeant ouvrier, syndical, se prononce aussi favorablement à un mouvement étudiant qui a toutes les caractéristiques du mouvement étudiant, hein, hein, y compris avec Dixon, vieux débris altermondialiste. C'est-à-dire qu'il y a dans le mouvement étudiant britannique des composantes à la fois... il y a des composantes radicales, un peu incontrôlables dans le mouvement étudiant. C'est peut-être tant mieux, hein, ça. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai... Oui, comment est-ce qu'on sait si ça marche ou pas? C'est pas simple hein, comme question. Si je voulais répondre de manière simple et simpliste, je te poserais la question. Quel candidat socialiste à la présidence demain ou aujourd'hui va revendiquer l'héritage blairiste. Aucun. Aucun. Et ça, je pense que c'est à la fois la conséquence de la puissance du mouvement social en France. Il y a des choses qu'on peut penser, on peut même se démerder pour peut-être faire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc je pense que ça, c'est déjà un acquis, ça. Le fait qu'on est obligé d'adopter des stratégies rhétoriques de contournement pour ne pas dire, pour ne pas revendiquer directement l'héritage blairiste. Ça, je n'ai aucune illusion, par contre, sur la réalité des positionnements de Strauss-Kahn. Je pense qu'effectivement, Strauss-Kahn va éviter, pour des raisons politiques, la référence britannique, mais je pense qu'il a une forte envie de faire ce qu'ont fait les camarades sociolibéraux britanniques. Donc, en quelque sorte, je botte en touche. J'ai un argument optimiste, mais il ne cache pas complètement un argument un peu pessimiste. Voilà. Ils n'ont pas faim.
Donc on va s'arrêter là pour ce matin, on va aller déjeuner. Je vous rappelle qu'on se retrouve donc à 14h pour le film, et même un petit peu avant pour qu'on ne perde pas de temps sur la table ronde. Je vous rappelle également qu'on a toujours une boîte pour que vous nous aidiez sur la participation financière à la hauteur de vos moyens pour financer ce festival. Donc bon appétit à tous et à cet après-midi.